الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. Nous allons donc continuer, inshallah, de parler de aqaid, ce qu'on appelle ilmul-usul, ilmul-aqaid. Ça s'appelle aussi ilmul-tawhid et dans une certaine mesure aussi ilmul-kalam. Mais tout simplement, c'est notre iman, notre foi, notre tawhid. Et ces connaissances, eh bien ces connaissances constituent ce que les ulama ikram appellent usulul usul ou aslul usul. Ce sont les premiers principes, les principes de base, les principes fondamentaux de notre din. C'est à partir de ces principes premiers qui concernent donc les croyances, les convictions, que s'élaborent tous les autres principes. Et comme nous l'avions dit la dernière fois, ce que nos ulamas nous enseignent à la madrasa, aux enfants, amantu billah, comme on appelle ça iman et mujmal, c'est-à-dire la foi articulée d'une manière très abrégée, très concise. Ça constitue l'essentiel même de nos croyances. Amantu billah, je crois en Allah. Kama huwa bi asma'ihi, comme il est, comme il existe. Kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi, comme il est, selon ses attributs, selon ses qualités. Et donc ce sont les croyances, les convictions. Et ce que cela implique, ce que cela entraîne nécessairement, et j'accepte donc tous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est iman et mujmal. Iman et mufassal, ce sont toujours notre credo, ce qu'on appelle le credo, c'est-à-dire les croyances. Amantu billah wa malaikatihi kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'thi ba'da al maut. Là c'est un peu plus détaillé. Amantu billah, je crois en Allah, wa malaikatihi, aux anges, wa kutubihi, aux livres divins, wa rusulihi, aux messagers qui apportent ces livres, wa al-qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Ça c'est le qadr, ce qui nous arrive d'agréable, de désagréable, etc. Le bien, le mal, c'est qadr, c'est le destin. Wa al-ba'thi ba'da al-maut, ça c'est une partie très très importante de notre iman, c'est la résurrection, ce qui se passe, ce qui va se passer après notre départ de ce monde. On ne disparaît pas. Dans notre langage moderne, on dit quand quelqu'un meurt, il a disparu. En fait, on ne disparaît pas. On disparaît peut-être de la terre, on disparaît aux yeux des gens de cette terre, de ce monde, mais on ne disparaît pas. On ne fait que quitter un monde et on passe dans un autre monde, d'ailleurs, en arabe certainement, mais on connaît plus la langue ourdou. On dit, quand quelqu'un quitte ce monde, on dit « intiqal huwa gaya ». cette personne, elle a émigré, elle a passé d'un endroit à un autre endroit. Muntaqil, ça vient de Naql, Muntaqil, c'est un mot arabe, d'origine arabe, où on dit Rehnat Huogay. Rehnat Huogay, il a voyagé. Donc, ce sont nos. Les croyances, donc, c'est extrêmement important. Et nous allons parler un peu, bien sûr, parce que, comme on l'a dit la dernière fois, parler des aqaïd, des usul, des croyances, on peut et on devrait en parler pendant des heures et des heures. Pourquoi ? Parce que c'est parmi toutes les sciences, les connaissances qu'il y a, c'est la connaissance la plus captivante. C'est la connaissance des connaissances les plus captivantes, les plus intéressantes, parce que ça concerne notre Créateur. Ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala directement. Comment il est, quels sont ses attributs, pourquoi est-ce que nous sommes là, d'où est-ce qu'on vient, quel est notre but. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé dans l'autre monde et comment il a organisé ce monde pour nous, ce passage dans ce monde, et donc particulièrement Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, parce que notre but, l'objectif final, ce n'est pas ce monde, ce n'est pas uniquement de pratiquer des choses, de faire des choses, de ne pas faire des choses. Mais le but ultime, le but final, c'est le Jannah dans notre monde. Et c'est même pas le Jannah en lui-même, le paradis en lui-même. C'est le paradis, bien sûr, mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste avec son agrément dans le paradis. En fait, c'est le but ultime, le but final, c'est la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, la rencontre avec Allah, liqa Allah. Et ça, c'est un mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il cite dans le Coran. La rencontre, mulaqat, on dit, on fait mulaqat avec quelqu'un dans ce monde, c'est, on le trouve, il est très très proche de nous. Donc la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans notre monde, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre monde, ça aussi ce sont des mots du Coran, des hadiths. La vision d'Allah, de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ? Allahu a'lam. Ce n'est pas comme on va rencontrer une créature, une création, où on va voir une créature, une création. Mais ce sont les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il nous enseigne. Donc le but ultime, c'est voir Allah, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans notre monde. Donc c'est, en même temps, c'est nécessaire, c'est logique, c'est évident de connaître celui qu'on va voir, celui qu'on va rencontrer et qui est notre Créateur en même temps. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas quelqu'un d'étranger qu'on va voir, qu'on va rencontrer. Non, c'est notre Créateur. Nous sommes là parce qu'il est là. Nous existons parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Donc il y a plusieurs façons que les ulama, les mashaikh, ils ont articulé ces articles de foi, les credos, le credo du musulman. Et plusieurs façons aussi, plusieurs approches, ils ont élaboré les attributs d'Allah. Il y a, on va, Inch'Allah, aujourd'hui, et les autres semaines aussi, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala accorde la vie, de nous baser sur il y a un livre de fiqh, qui s'appelle As-Halul Masalik. C'est écrit par un éminent alim, un éminent savant, Sidi Muhammad al-Bashar, un égyptien. Il est de Rik Malikit, et c'est un livre de fiqh, mais écrit en vers, en poème. Subhanallah, un livre de fiqh, de loi, de règles, c'est écrit en vers, en poème, en poésie. Donc le fiqh peut être une poésie aussi en même temps. Mais le premier chapitre qu'il a écrit, ça concerne les croyances apparides. Babu usuliddin wa ma yajibu ala al-mukallaf. C'est le chapitre sur les usuluddin, sur les croyances apparides. Wa ma yajibu ala al-mukallaf, et ce que ça implique. Donc les obligations qu'il y a sur celui ou celle, l'homme ou la femme qu'on appelle mukallaf. Et les premières lignes, premier vers, c'est que awwalu ma yajibu ala al-mukallaf, c'est ilmu al-usul ma'rifatullah. Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi ma'rifatullah. Fa'arifi yaqinan ma'rifatullahi yaqinan fa'arifi. Il dit que la première obligation sur le mukallaf, c'est-à-dire la personne qui est moralement, légalement responsable et qui a accepté cette responsabilité, eh bien, c'est ma'rifatullah. C'est une connaissance précise, une connaissance assez précise, assez complète, on va dire, si on peut employer ce mot, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arifi, donc, c'est une nécessité de connaître Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus intime possible, la plus précise possible, pour pouvoir l'adorer complètement, totalement. Et là-dedans, il résume les attributs d'Allah en 13 attributs essentiels. Ce ne sont pas tous les attributs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est un être infini. Donc tous ces attributs sont aussi infinis. Mais les ulama, d'après toujours Qur'an et Hadith, ils ont regroupé, résumé 13 attributs. C'est la base. Ce ne sont pas tous les attributs d'Allah, mais c'est l'essentiel des attributs d'Allah à partir de lesquels on peut encore aller. Alors, je les cite rapidement, mais on va en parler de manière générale aussi. Alors, c'est divisé en deux catégories. La première catégorie, ce sont des attributs, on appelle ça, que les ulama, ils ont appelé des attributs de négation. Des attributs de négation d'Allah, il y a 6. Et ensuite, des attributs d'affirmation d'Allah, il y en a 7. 6, 7, 13. Et nous allons essayer, bien sûr, inchallah, de faire pas un cours universitaire, comme ça se fait dans les Darul Uloum. Il y a un Darul Uloum qui n'est pas très loin, ici, à 150 mètres, à 200 mètres, et tous les autres Darul Uloum, eh bien, ce sont des cours universitaires. On parle de ça, mais dans des termes techniques, il faut une base, il faut des années pour comprendre ce discours. Mais ça se fait. Tous les ulama ikram qui sont ici parmi nous et les autres, eh bien, ils ont suivi ces cours. Mais ça, c'est au niveau universitaire. Mais à notre niveau, à nous, c'est nécessaire de les connaître aussi. C'est essentiel, même si on ne va pas pouvoir citer les dala'il, les preuves et tout ça, mais les connaître, c'est notre iman quand même. C'est notre iman, c'est notre foi, et c'est d'après notre iman, si on a le minimum de iman, c'est notre passeport pour le Jannah, dans notre monde. Ici, même dans ce monde, c'est pas seulement dans notre monde, c'est autre chose, mais même dans ce monde, s'il y a iman, comme il le faut, comme il faut, tawhid, et s'il y a la taqwa qui découle de l'iman, eh bien, hayatan tayyiba, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous accorder une belle vie dans ce monde, comme Hazrat Maulana Shafi Tahawi disait, il interprétait plutôt, hayatan tayyiba, il disait, Ba lutf zindagi, une vie pleine de sérénité, de plaisir dans ce monde. Même avec tous les événements, toutes les calamités, toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Si on a iman et taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala facilite toutes nos affaires dans ce monde, etc. Tous les bienfaits, les immenses bienfaits de la taqwa dans ce monde, c'est la sécurité, c'est la tranquillité, etc. Donc l'iman nous sert dans ce monde aussi, et dans l'autre monde c'est notre passeport, notre visa pour le Jannah. Il faut avoir un vrai passeport. Il faut s'assurer que notre passeport, c'est un vrai. Parce que si on voyage, on va dans un autre pays, on peut passer ici, à la douane, avec un faux passeport. C'est possible qu'on passe. Mais quand on arrive dans l'autre pays, là-bas, on retourne plutôt. Parce que on ne va pas dans l'autre monde, on retourne dans l'autre monde. Si on retourne dans son pays natal, avec un faux passeport, eh bien, ça ne va pas passer. Surtout, à notre époque, c'est informatisé, donc on sait tout de suite si ce passeport, il est vrai ou il est faux. On l'a, le passeport, on croyait que c'était un vrai passeport, mais c'est un faux. Et on ne pourra pas rentrer. Ou on va rentrer, oui, mais en prison, directement en prison. Donc, iman sahih, hein, une foi correcte, tawhid, correct. C'est déjà notre passeport, notre visa pour le Jannah. Donc nous allons parler brièvement, bien sûr, ce n'est pas un cours complet. C'est plutôt pour nous faire prendre conscience, à moi-même en premier et à nous tous, de l'importance de ces aqaïd. Et surtout à notre époque, comme on l'a dit la dernière fois, que notre époque, c'est l'ambiance. L'ambiance et de Dajjal, l'époque, l'ambiance et l'environnement de l'époque de Dajjal. C'est-à-dire que tout est fait, tout, dans tous les domaines, de toutes les manières, tout est fait pour enlever le tawhid du cœur, pour enlever l'iman du cœur, d'une manière directe parfois, d'une manière indirecte d'autres fois, et d'une manière insidieuse, c'est-à-dire secrète, la plupart du temps. Donc on doit être très, très vigilant à propos de notre iman, de notre tawhid. Donc c'est six attributs de négation. Pourquoi ? Parce que ce sont des attributs qui s'énoncent de cette façon, que de cette façon, Allah n'est pas comme ça. C'est la négation de quelque chose, mais qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il y a la première qu'il cite, c'est l'existence nécessaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est wajibul wujub, il existe. C'est une existence qui n'est pas seulement possible, mais c'est nécessaire. C'est comme ça, il existe. Et ça, c'est aqida, c'est une vérité, c'est une réalité. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui existe, tout le reste, eh bien, c'est une existence possible. C'est possible comme ce n'est pas possible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non, il existe par lui-même et c'est une existence nécessaire. Seul Allah subhanahu wa ta'ala possède cet attribut. Tout ce qui a été créé ou est créé sera, peu importe, c'est une existence seulement possible. Deuxième, la préexistence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est la négation du commencement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de commencement. En dehors d'Allah, tout a un début, un commencement. Que ce soit ce monde, cet univers, il a eu un commencement. L'être humain, nous avons eu un commencement. et que ce soit le macrocosme, comme on dit, l'univers, ou le microcosme aussi. Même l'atome n'existait pas avant. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et même tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'atome, la moindre particule, tout ce qui existe, ça n'existait pas avant. Ça a eu un début, un commencement. Déjà là, on peut avoir une idée de l'infinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tout ce qui existe dans ce monde, que ce soit la matière, que ce soit la non-matière, la moindre pensée, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on ne peut pas imaginer, ça a un commencement, ça a un début. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 3, c'est l'éternité. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la négation de la fin. Allah n'a pas de fin non plus. Alors que toute chose a une fin ou a une possibilité de fin, de disparition totale cette fois-ci. Il y a juste une exception, c'est nous. C'est notre âme, notre ruh. Elle a eu un commencement créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété que nous allons vivre éternellement aussi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire disparaître aussi. Nous avons cette propriété de possibilité de disparition aussi. Donc seul Allah subhanahu wa ta'ala est réellement et complètement éternel. Numéro 4, l'autosuffisance. Allah subhanahu, ça c'est la négation du besoin. Et il y a un principe aussi, lorsqu'on va, inchallah, énumérer et parler de tous ces attributs d'Allah, ce n'est pas un enseignement et un cours uniquement théorique, philosophique. Ça a une implication directe sur notre vie. Ça nous sert, ça va nous servir ici, dans notre monde, partout. Ce n'est pas juste un enseignement ou un cours qu'on fait là dans la masjid ou dans, quand on le fait dans les universités, dans l'ulum, c'est juste pour connaître. On accepte, on n'accepte pas, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur notre vie quand on va sortir de la masjid ou du Darul Uloum. C'est quelque chose, ce sont des connaissances, ce sont des réalités qui vont nous servir tout le temps. On va chez nous, on travaille, on va notre comportement envers les autres, etc., etc., dans nos actions, dans nos pensées, partout, dans notre commerce, dans la conception des choses. Ça a, et si on ne cultive pas, on n'a pas yaqin, parce que, comme cher Muhammad al-Bashar il dit, ma'rifatullah yaqinan. C'est le ma'rifat d'Allah, mais il faut avoir la certitude dessus, la certitude, la conviction de ces réalités, avoir conscience, pas seulement ici, mais même dans notre commerce, lorsque nous allons vendre, acheter, lorsque nous allons faire des projets, lorsque nous allons manger, lorsque nous allons vivre à la maison avec notre famille, notre femme, nos enfants, dans l'héritage, etc., dans nos conceptions des choses. Ce qui va dicter tout ça, ce sont nos croyances. C'est ce qu'on appelle, ça c'est pour le musulman. Pour le mu'min, c'est le cadre cognitif dans lequel il va évoluer. C'est-à-dire c'est un cadre, un ensemble de connaissances, de perceptions. C'est là-dedans qu'on fait quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on fait des projets, qu'on a une telle conception de ceci, telle conception de cela. C'est ça qui va déterminer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, nos actions, nos réactions. Et ça, c'est unique pour le mu'min. C'est uniquement le mu'min qui a cette perception complète et elle est sophistiquée. D'ailleurs, le dîn, l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé, il nous a gratifié par sa grâce Ben, c'est le système de civilisation la plus complète, la plus parfaite, la plus élaborée de tous les temps. Ce que le messager d'Allah, il a emmené. À toutes les époques, bien sûr, chaque prophète, c'était le système le plus vrai, le plus élaboré. Mais Nabi Karim, c'est le summum, c'est la perfection des perfections. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement à la première personne, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Dans ce sens que j'ai personnellement pris soin à parachever, à compléter, akmaltu, ça vient de kamal, akmaltu lakum, pour vous, c'est pas pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre, le din, c'est pas pour lui. Il ne retire rien de ce din, il n'a aucun besoin, comme on vient de le dire. Il est as-samad, s'il y a un attribut parmi les autres formules ou les attributs qui expriment cet attribut d'autosuffisance, c'est as-samad. Al-muhtaj ilayhi kullu ahad. C'est que tout ce qui existe a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui-même al-mustarni an kulli ahad, et lui-même il est indépendant de tout, de toute chose, de toute créature. Le din qu'il nous a donné par sa grâce, sa miséricorde, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Nous, on va en retirer tous les bienfaits. Donc c'est le din le plus parfait, le plus complet, et c'est pour nous. C'est pour ça, comme on a dit au début, on va terminer, le temps est terminé, on a dit que le cheikh, il dit, il a écrit aussi, c'est wama yajibu ala al-mukallaf, les obligations qu'il y a sur le mukallaf. Et mukallaf, ça vient, c'est le même mot, c'est taklif, c'est kulfa, c'est-à-dire, c'est une charge en fait. C'est un fardeau, c'est une charge, une responsabilité. Mais ce n'est pas n'importe quelle responsabilité, n'importe quelle charge. D'ailleurs, une des étymologies du mot kulfat en arabe, on dit kalifa shay'a, c'est quelqu'un lorsque c'est aimer quelque chose passionnément, aimer quelque chose intensément. C'est un peu comme nous en main disent, c'est comme la charge, la responsabilité d'une maman, d'une mère envers son enfant. C'est une charge, c'est une responsabilité, c'est entre guillemets un fardeau, mais en même temps il y a de l'amour dedans. C'est une charge, une responsabilité d'amour pour son enfant. Elle ne le fait pas parce qu'elle est obligée, elle le fait avec joie. Elle va s'occuper de son enfant, elle va le nourrir, elle va la nuit, elle va le changer, le laver, s'occuper d'elle. Elle va passer tout son temps pour s'occuper de son enfant. C'est une charge, c'est une responsabilité, mais elle le fait avec amour. C'est dans ce sens-là. Et être mukallaf aussi, ça signifie que lorsqu'on est, on devient mukallaf, eh bien, on est autorisé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une permission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'adorer Allah. Donc il ne faut pas considérer notre din comme quelque chose, on le fait parce qu'on est obligé de le faire, si on le pouvait, on ne le ferait pas. Il faut l'accepter, c'est un privilège. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir autorisé, permis de l'adorer. Et pour notre propre bien, il n'en retire rien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde avec l'imam, qui nous permette de continuer ce mois de Ramadan, de bien passer ce mois de Ramadan, qui nous accorde la santé, le bien-être, et qui nous accorde les tawfiq de bénéficier de tous les bienfaits de ce mois de Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillah.